Vous êtes bien sur Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. Le bilan de l'attentat de Kaboul vendredi dernier s'est alourdi, au moins 43 personnes ont été tuées. Le déplacement de la première ministre française en Algérie, samedi et dimanche prochain. L'Algérie est un pays frère, nous sommes liés par une histoire commune, nous dit Sabrina Agresti-Roubache, députée de Marseille, porte-parole du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Elle était l'invitée de Pluriel, nous l'écouterons. Regard dans votre journal sur la maladie d'Alzheimer avec une femme qui a accompagné son mari qui souffrait de cette maladie. Jacqueline Santarelli est bénévole au sein de l'association France Alzheimer en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elle sera l'une de nos invitées. Une nouvelle campagne de vaccination contre le Covid-19 s'est ouverte aujourd'hui avec des vaccins adaptés aux derniers variants. Cela alors que la France est touchée par la 8e vague de l'épidémie. Le bilan s'est alourdi en Afghanistan après l'attentat suicide commis vendredi dernier dans un centre de formation pour étudiants à Kaboul. Au moins 43 personnes ont été tuées, 83 blessées. C'est ce qu'indique la mission d'assistance des Nations Unies en Afghanistan et elle précise que les principales victimes sont des filles et des jeunes femmes. Le déplacement en Algérie de la première ministre Elisabeth Borne, samedi et dimanche prochain. L'invitée de Pluriel ce week-end était Sabrina Agresti-Roubache, députée de Marseille, porte-parole du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Elle a évoqué cette visite. Elle revient sur la relation entre Paris et Alger et sur la question de l'immigration.
Nous sommes liés par notre histoire commune. L'Algérie et la France, c'est une histoire que personne ne peut renier ou nier. Donc oui, la place de l'Algérie est centrale, que ce soit sur les échanges commerciaux, mais que ce soit sur les échanges de valeurs. Donc c'est un pays frère, l'Algérie. Et c'est comme l'Arménie, vous voyez, ce sont des pays frères. Ce sont des pays sur lesquels, voilà, nous avons une histoire avec l'Arménie, nous avons une histoire avec l'Algérie. Et le voyage en Algérie du président de la République a été primordial sur le plan de la diplomatie, sur les échanges commerciaux, sur les échanges concernant les visas. Probablement que j'anticipe un peu votre prochaine question, mais nous avons, tout ça a été mis sur la table par le président de la République et nous sommes revenus avec... notre visite officielle s'est limite changée en visite d'État. Ça a été 3 jours et demi très intense et nous sommes revenus avec des débuts de discussion et puis nous, le travail parlementaire suivra. En tout cas, je peux assurer que nous suivrons pour les parlementaires qui étaient dans cette délégation, des députés Renaissance, mais aussi des députés NUPES, avec qui nous travaillons sur ces échanges, avec des sénateurs comme Rachid Temal, PS, Christian Cambon, qui est LR. Donc voilà, nous avons encore beaucoup de choses à travailler ensemble et à réussir avec l'Algérie.
Et les relations entre la France et l'Algérie sont aujourd'hui apaisées. Faudra octroyer davantage de visas, notamment à des étudiants, par exemple.
Notamment, mais pas que, notamment aussi à des personnes qui ont de leur famille qui est ici, des membres de leur famille. Par exemple, je pense à ces retraités que j'ai rencontrés là-bas, qui sont retraités, des anciens chefs d'entreprise, des médecins, qui ont leurs enfants établis en France et qui sont soumis exactement aux mêmes restrictions de visa, on va dire aux mêmes contraintes de visa que n'importe lequel de leurs concitoyens. Donc nous avons à travailler sur ces visas, mais en échange, l'Algérie doit accepter aussi de reprendre tout les Algériens qui sont issus de l'immigration illégale. Donc je dis, il faut être absolument ouvert sur cette immigration qui veut venir en France, mais qui vient probablement pour s'installer, mais aussi juste partir et revenir, comme on disait, faire des allers-retours, mais absolument ferme sur le retour des étrangers illégaux sur notre territoire. Je pense qu'on ne peut pas s'entendre si ça n'est pas mis au centre du jeu. Et ça a été mis par le président de la République. Donc le président Tebboune a parfaitement pris en compte les échanges que nous avons sur cette coopération, parce que la lutte contre l'immigration illégale, ça concerne l'Algérienne, hein, je parle, ça concerne l'Algérie directement.
Sabrina Agresti-Roubache, députée de Marseille, porte-parole du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Elle était l'invitée de Pluriel, émission présentée par Loïc Barrière. La contestation perdure en Iran depuis la mort le 16 septembre dernier de Mahsa Amini après son arrestation par la police des mœurs. Des forces de sécurité iraniennes ont affronté hier soir les étudiants de l'une des principales universités de Téhéran. La répression des manifestations a fait près d'une centaine de morts en 2 semaines. 2 Palestiniens ont été tués par des soldats israéliens près du camp de réfugiés de Al-Jalazoun. Il est situé près de Ramallah, dans le nord de la Cisjordanie occupée. L'un des plus hauts dirigeants du mouvement terroriste Shebab a été tué, c'est ce qu'annonce le gouvernement somalien. Abdoulahi Yar a été la cible d'une frappe de drone lancée samedi, notamment par l'armée somalienne. Une frappe près de la ville côtière de Amraka, dans le sud du pays. La fin du mandat du président libanais Michel Aoun le 31 octobre prochain. Les députés seront appelés à une 2e séance électorale pour désigner un nouveau chef de l'État avant la mi-octobre. Une annonce du président du Parlement qui incite, dit-il, les parlementaires à prendre leurs responsabilités en vue de cette échéance. À l'issue de la 1ère séance électorale jeudi dernier, aucun président n'avait été désigné faute de consensus. Bientôt un visa électronique pour les étrangers qui souhaitent se rendre en Algérie. C'est ce qu'a annoncé le premier ministre algérien. C'était en marge du 21e Salon international du tourisme et des voyages à Alger. L'objectif est d'encourager le secteur du tourisme. Une nouvelle campagne de vaccination contre le Covid-19 s'est ouverte aujourd'hui. Cela alors que la France est touchée par la 8e vague de l'épidémie. Cette campagne repose sur les tout nouveaux vaccins de Pfizer et Moderna, spécialement conçus pour Omicron et ses variants. La Haute Autorité de Santé conseille d'administrer les doses de rappel des nouveaux vaccins en priorité aux personnes fragiles, aux personnes qui sont en contact avec elles. Elle touche 1 200 000 personnes en France. Regard sur la maladie d'Alzheimer. Depuis plus de 30 ans, l'association France Alzheimer lutte contre cette maladie neurodégénérative. Le témoignage d'une aidante, Jacqueline Santarelli, a perdu son mari qui souffrait de cette maladie. Aujourd'hui, elle est bénévole au sein de l'association France Alzheimer en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Entretien.
Mon mari a déclaré la maladie d'Alzheimer à 50 ans. Et petit à petit, donc, je suis devenue son aidante. Je l'ai aidée à chaque fois qu'il en avait besoin, quoi. Alors, au départ, pour la prise de rendez-vous à droite à gauche. Et puis, au fur et à mesure de l'évolution de la maladie, bien dans tous les actes de la vie quotidienne.
Quels ont été les premiers signes, les premiers symptômes?
Ça a été un peu particulier parce que lui étant très jeune, quoi, et à l'époque, il n'y avait pas encore ces avancées qu'il y a eu sur la maladie d'Alzheimer, ils avaient détecté une dépression, quoi. Bah, il oubliait des rendez-vous, il oubliait des petites choses, et puis petit à petit, il n'arrivait plus à travailler, quoi. Il mélangeait tous les papiers, il n'y arrivait plus, quoi. Donc, il a été soigné pendant 4 ans pour dépression. Au départ, il avait fait un IRM qui montrait très très peu de signes et tout allait plutôt bien. Et au bout de 4 ans, son état évoluait, il n'allait jamais mieux, quoi. On a décidé d'aller consulter un neurologue qui lui a fait faire une scintigraphie. Et c'est à la scintigraphie que le diagnostic a été posé.
Cela consiste en quoi, une scintigraphie?
C'est un examen du cerveau très poussé, plus précis qu'un IRM. Et là, ils ont détecté déjà à l'époque... Donc, il avait 54 ans, hein, puisqu'il a fait sa scintigraphie à 54 ans. Ils ont détecté qu'il y avait des dépôts sur les cellules, sur les neurones, quoi. Et le neurologue a diagnostiqué, alors pas vraiment la maladie d'Alzheimer, mais une maladie apparentée. Et au fur et à mesure, ça a été déclaré Alzheimer, quoi. Hein. Voilà, alors au départ, c'est pas grand-chose, hein, c'est des petits oublis. Et petit à petit, c'est pour conduire, manque d'attention, manque de concentration, et jusqu'à après ne plus savoir manger seul, l'incontinence, ne plus arriver à marcher, voilà quoi. Et donc, forcément, plus ça va et plus on aide le malade, quoi.
Et comment a-t-il été pris en charge médicalement lorsque le diagnostic a été posé ?
Alors, médicalement et vu son jeune âge, le neurologue l'a dirigé vers le centre mémoire, centre de recherche et de mémoire de Nice. Et il a pu bénéficier de protocoles thérapeutiques. Il est rentré dans deux protocoles thérapeutiques et il a testé des nouveaux médicaments, sachant que aujourd'hui, on n'a aucun médicament pour la maladie d'Alzheimer hein, qui soigne et même pas qui retarde un peu la maladie. Donc, à chaque fois, il essaye de nouveaux médicaments. Et voilà, il pouvait rentrer dans deux protocoles de soins. Donc il a testé deux médicaments. Et après, bon, c'est toujours pareil dans ces protocoles. Vous prenez pendant un certain temps et ensuite, soit ça continue, soit ça s'arrête parce que le médicament n'est pas efficace, quoi. Et dans les deux cas, le protocole s'est arrêté, quoi.
Et combien de temps a-t-il vécu avec cette maladie à partir de la pose du diagnostic ?
À partir de la pose du diagnostic, 12 ans.
Et vous avez tenu à ce qu'il reste chez lui, c'est-à-dire chez
Alors,
vous ?
Oui, voilà, moi ça a été mon choix. J'avais envie de l'accompagner le plus longtemps possible dans sa maison. Il faut pouvoir le faire, hein, parce que il faut que l'environnement soit adapté à pouvoir garder un malade comme ça à la maison. Nous, on habitait dans une maison à deux étages. Au bout d'un moment, il n'arrivait plus à monter dans la chambre parce qu'il y avait les escaliers. Il n'arrivait plus à monter les escaliers. Donc, j'ai aménagé le bas de notre maison pour qu'il puisse dormir en bas. On a installé un lit médicalisé. Donc, j'avais le lit médicalisé, le fauteuil roulant, le fauteuil coque pour qu'il soit bien installé pour se reposer. J'avais un verticalisateur parce que il était très, très raide. Alors ça, c'est pas tous les malades d'Alzheimer. Hein, mais bon, lui, il a développé, parallèlement à sa maladie d'Alzheimer, une raideur type les symptômes de Parkinson, raide. Et donc, c'était un bloc, quoi. Il n'arrivait plus à plier les genoux, il n'arrivait plus à... C'était très compliqué, quoi. Et donc, moi, je voulais le garder à la maison, enfin, tant que je pouvais, quoi. Et c'est ce que j'ai fait, non sans mal. J'ai trouvé des... Je me suis pas pour pouvoir avancer avec l'évolution.
Et à la fin de sa vie, il ne pouvait plus communiquer, mais vous ressentiez chez lui une forme d'apaisement, le fait d'être chez lui, avec vous, l'apaisait ?
Oui, 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 j'ai toujours regardé chez moi parce qu'il me semblait qu'il était apaisé, qu'il était bien dans sa maison, même s'il ne communiquait plus, mais je le sentais détendu. Et donc, juste le fait de le sentir détendu, puis on communiquait par le toucher. Oui, je sentais qu'il était apaisé et que je pouvais continuer à le garder. Et donc, voilà, je l'ai gardé jusqu'à la fin. Et voilà. Et puis, il a eu une infection pulmonaire. Il est décédé d'un emphysème des poumons.
Et c'est important ce que vous dites, hein. Il y avait un contact malgré tout entre vous.
Oui, 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 oui. Il y a toujours eu un contact, le toucher, voilà, je lui caressais les mains, je le prenais par la main, quoi. Enfin, j'avais l'impression, parce que comme il ne parlait plus, j'avais l'impression quand même que ça lui faisait du bien, quoi. Et j'ai toujours été présente, quoi. J'ai mis, on va dire que j'ai mis entre parenthèses ma vie, mais par choix. J'étais contente de le faire, quoi.
Vous êtes contente de l'avoir fait aujourd'hui ?
Je suis contente de l'avoir fait aujourd'hui. Ah ben, c'est un gros, gros apaisement pour moi parce que il me semble que voilà, j'ai fait ce que j'ai pu du mieux possible. Et oui, j'ai réussi à le garder à la maison jusqu'à la fin. Et ça, c'est vrai que c'était important pour moi et peut-être pour lui aussi, hein, parce que je sais que dans... le placement, c'est compliqué, quoi, pour les deux. Hein.
Une personne qui vous écoute, dont un proche est atteint de cette maladie, quel type de conseil vous pouvez lui donner ? Est-ce qu'il est possible de donner des conseils ?
Il est possible de donner des conseils généraux, on va dire, mais après, c'est vrai que comme chaque patient est différent et chaque aidant est différent, moi, le conseil que je donne, c'est d'être le plus en accord avec soi-même, de se préserver, de ne pas subir une situation trop difficile parce que ça retentit sur la santé de l'aidant et c'est pas non plus le but. Le but, c'est de faire ce qu'on peut, du mieux qu'on peut, le plus longtemps possible. Et quand on peut plus, il faut s'enlever la culpabilité de dire j'ai pas réussi. Je suis allée jusque là où je pouvais aller et c'est déjà énorme quoi de pouvoir faire du mieux possible quoi. Mais c'est vrai que comme chaque malade est différent, on peut pas donner des conseils vraiment très ciblés quoi.
Et aujourd'hui, vous avez choisi d'être bénévole au sein de l'association France Alzheimer.
J'ai choisi d'être bénévole parce que durant tout le parcours de la maladie de mon mari, France Alzheimer, avec leur accueil de jour à Nice, m'ont beaucoup aidée parce que mon mari, je travaillais encore à l'époque et du coup, je pouvais plus le laisser seul à la maison. Et j'ai fait appel donc à l'accueil de jour et il est allé 4 jours par semaine à l'accueil de jour et ça a été formidable pour moi. Du coup, quand il est décédé, je me suis dit que si je pouvais apporter quelque chose à l'association, ben, je le ferais volontiers. Parallèlement à ça, quand même, je suis toujours aidante parce que à la mort de mon mari, j'ai récupéré ma mère qui a la maladie d'Alzheimer aussi. J'ai récupéré chez moi. Oui, je donne un coup de main à l'association et entre autres, je fais de la formation des aidants.
Jacqueline Santarelli, bénévole au sein de l'association France Alzheimer en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fin de cette édition, vous êtes bien sur Radio Orient. À 12h30, votre journal en langue arabe. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour le Flash. 17h30 pour votre journal en langue française. À 19h et 23h, votre émission politique plurielle présentée par Loïc Barrière. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient. Il est 12h17.